19h, belle soirée à l'écoute d'Europe Soir.
Les ravisseurs présumés de la petite Mia enlevée mardi matin dans les Vosges, interpellés aujourd'hui en région parisienne. En revanche, aucune nouvelle de la petite fille et de sa mère.
Après l'euphorie de la réouverture des terrasses et les rassemblements sans distanciation sociale, l'heure est à l'inquiétude à Londres. Les autorités pourraient décider de nouvelles mesures de restriction.
Alors qu'en France, l'exécutif consulte et se réunit pour préparer la réouverture progressive et le retour à une vie presque normale. Enfin, si tout va bien.
Avec Didier François, nous reviendrons ce soir sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan qui sera effectif le 11 septembre, tout sauf un hasard.
Et puis quand un temple du foot se transforme en temple du rock, le Vélodrome à Marseille va accueillir Mick Jagger, ou presque.
La météo avec Anissa Dadi, encore de la fraîcheur demain.
Hop, 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 on ne range pas encore les écharpes et les grattoirs à pare-brise. Demain, les températures restent négatives le matin, bien en dessous des normales de saison. Et puis demain, dans l'après-midi, c'est dans le sud-est que le temps sera le plus agité. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc l'information de cette fin d'après-midi. Gladys Laffitte, l'interpellation des ravisseurs présumés de la petite Mia qui avait été enlevée mardi matin dans les Vosges.
Oui, trois hommes qui ont donc été arrêtés aujourd'hui en région parisienne. Ils sont actuellement en garde à vue, interrogés par les gendarmes. D'après nos informations, ce sont les trois hommes qui avaient été signalés lors de l'alerte enlèvement diffusée mardi soir. Ils s'étaient présentés comme étant des représentants de la protection de l'enfance au domicile de la grand-mère maternelle de Mia, chez qui elle était hébergée. En revanche, la petite fille de 8 ans est toujours activement recherchée, tout comme sa mère, 28 ans, soupçonnée d'être à l'origine de cet enlèvement. Elle n'avait plus le droit de voir sa fille seule depuis janvier. Mais ces trois interpellations sont donc une première étape et les interrogatoires des trois hommes pourraient être déterminants pour retrouver la petite fille, introuvable donc depuis mardi matin, après avoir été enlevée dans les Vosges.
Merci Gladys Laffitte. 19h01, ce sont des images qui nous ont fait rêver et nous ont même rendu, avouons-le, un peu jaloux en début de semaine, celle de ces terrasses prises d'assaut à Londres.
Alors qu'en France, on va y revenir, Emmanuel Macron réunit en ce moment plusieurs de ses ministres pour discuter justement de la réouverture des bars et des restaurants, là aussi en terrasse, si tout va bien à partir de la mi-mai.
Oui, sauf que l'exemple britannique pourrait bien refroidir les responsables français.
Nina Guérino de la mairie, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. Eh bien, en effet, chez vous, hein, après l'euphorie, les autorités sanitaires tirent le signal d'alarme. Le gouvernement et les scientifiques parlent même de réinstaurer des restrictions dans la capitale pour éviter une remontée des cas.
Et oui, à Londres, depuis 5 jours, on peut voir des rues bondées de londoniens assis en terrasse avec peu de distance entre eux. Alors après la joie de retourner boire une bière, c'est désormais l'inquiétude qui règne. Ces foules inquiètent la communauté scientifique, notamment l'infectiologue Anthony Arden.
Je suis vraiment inquiet à cause des scènes que l'on a pu voir à Londres où les gens profitent des terrasses sans que les distances soient respectées. Le danger avec une remontée des cas, c'est que le niveau de transmission augmente aussi. Et avec ce nouveau variant sud-africain, on ne veut vraiment pas que cela devienne majeur dans le pays parce que le vaccin n'est pas très efficace contre lui.
Dans le sud-ouest de la capitale britannique, près de 70 cas de variants sud-africains ont été détectés. Des tests sont effectués en masse dans les trois quartiers concernés pour contrôler sa propagation. Isabella, 24 ans, qui habite dans le sud-est, fait partie de ceux qui profitent pleinement de la réouverture des pubs. Tout cela n'affole pas vraiment la jeune polonaise.
Je pense qu'il y a toujours un risque, mais je suis certaine que tout le monde a pris les précautions nécessaires pour assurer qu'on soit tous protégés.
Si les cas continuent d'augmenter, des confinements locaux pourraient être remis en place dans la capitale.
Nina Guérino de l'Amérique, correspondante d'Europe 1 à Londres.
Oui, on précise qu'au Royaume-Uni, près de 48% de la population est vaccinée contre 61,6%, par exemple en Israël, où la vie a repris pratiquement normalement.
En France, on est encore loin de ces chiffres, 12 millions de primo-vaccinés seulement, mais le gouvernement veut accélérer le mouvement. Le Premier ministre a annoncé cet après-midi qu'il y aurait des créneaux dédiés de vaccination pour certaines professions, comme les enseignants, par exemple, les policiers ou les gendarmes. Ça concerne environ 400 000 personnes de plus de 55 ans. Ces créneaux seront ouverts dès ce week-end dans plusieurs centres. La France qui, ça y est, a franchi le cap symbolique des 100 000 morts.
En vue toujours d'un retour progressif à la normale, Emmanuel Macron a réuni une quinzaine de maires en visioconférence ce soir pour évoquer la stratégie vaccinale et les perspectives de vaccination notamment.
Parmi ces élus, le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard.
Optimiste mais prudent, puisqu'il nous dit que les hospitalisations vont continuer à monter encore une dizaine de jours pour avoir un pic qui se situerait entre le 27 et le 30 avril. Et donc, en fonction de l'évolution ensuite rapide, l'ouverture se tiendra ou pas aux alentours du 15 ou du 20 mai. Il est sur ce trend-là avec, nous dit-il, un projet de plan d'ouverture dans les 10 jours qui sera discuté avec les maires sur les 2-3 semaines qui suivent. Et puis, à partir donc dans une trentaine de jours d'ici, l'ouverture oui, des premiers bars et puis des lieux de culture sur des protocoles que nous aurons 3 semaines, les maires et les préfets, avec l'État pour mettre en place. Ce qu'on a appris, c'est que la stratégie vaccinale, normalement, devrait porter ses fruits pour que, fin de l'été, tout le monde ait la possibilité d'être vacciné. Ce qu'il nous a dit, c'est que, effectivement, l'AstraZeneca et Johnson & Johnson étaient sur la sellette, mais que pour lui et pour la France, il n'était pas question pour l'instant d'arrêter ses vaccinations.
Le maire de La Roche-sur-Yon, au micro européen de Charles Guyard. Et après ses visioconférences avec les maires, Emmanuel Macron est en ce moment en réunion avec plusieurs ministres pour évoquer les modalités d'un retour progressif à une vie plus normale, avec toujours en ligne de mire la mi-mai en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
Ce matin, autre ambiance. Emmanuel Macron, combinaison grise et casque sur la tête, visitait le chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
2 ans tout juste après l'incendie.
Je crois qu'on voit ici combien en 2 ans, un travail immense a été accompli de sécurisation, d'expertise. Enfin, il y a tout ce qu'on ne voit pas aussi. Et on n'est qu'à une étape. On voit aussi tout ce qui reste à faire. On voit cette ambiance. Mais ça, je crois que c'est un message de fierté collective, parce qu'on a beaucoup fait en 2 ans et on a évité le pire. Un immense remerciement à toutes celles et ceux qui sont mobilisés par milliers d'ores et déjà sur ce chantier. Et puis on regarde aussi les 3 ans qui viennent. Parce que, ça a été dit, vous le faites avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme, mais il va nous falloir tenir nos objectifs. Et donc, il y a une très grande mobilisation, une planification très exigeante et rigoureuse. Et donc c'est aussi du volontarisme et de l'espoir dans cette période.
Emmanuel Macron ce matin sur le chantier de reconstruction donc de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La fin de 6 mois de controverses, le Parlement a définitivement adopté aujourd'hui la loi sécurité globale. 75 voix pour, 33 contre, loi qui pénalise notamment la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h08, la suite du journal, on part donc aux États-Unis où le président l'a confirmé hier, il va mettre fin à 20 ans d'intervention militaire en Afghanistan. Les djihadistes devront être rentrés à la maison avant le 11 septembre prochain.
Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, bien sûr. C'est l'œil de Didier François, comme tous les soirs. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Le 11 septembre, une date évidemment hautement symbolique.
Ah bah oui, tout le monde a en tête effectivement les images de ces deux avions qui percutent les tours jumelles du World Trade Center. La première attaque d'une telle ampleur sur le sol américain depuis le traumatisme de Pearl Harbor, la stupeur face à l'audace de cette organisation islamiste, Al-Qaïda, que le grand public découvre comme un ennemi mortel, capable de frapper partout dans le monde depuis ses bases arrières dans les montagnes afghanes. Et donc, effectivement, septembre 2001 a marqué le début de la guerre contre le terrorisme. Cette War on Terror déclenchée par George W. Bush, avec le soutien unanime de la communauté internationale à l'époque, eh bien, elle aura duré 10 ans, menée par 4 présidents américains, 2 républicains, 2 démocrates, sans qu'on en voit vraiment la fin. C'est bien à ce cycle, celui d'une réponse principalement militaire à la menace terroriste, que Joe Biden voudrait mettre un terme en retirant d'Afghanistan le contingent de 2500 hommes qui y stationnent encore, mais en renforçant en même temps les capacités de renseignement et de frappe ciblées contre les cellules clandestines qui sont toujours présentes dans la région.
C'est donc un changement total de stratégie.
Alors absolument, hein, sur la base du constat assez simple qui est que petit à petit, au fil des ans, les États-Unis ont finalement perdu de vue la raison initiale de leur intervention qui était de briser l'infrastructure logistique d'Al-Qaïda. Or, cela a été fait. D'ailleurs, l'exécution d'Osama Ben Laden en mai 2011 en était le point d'orgue. L'organisation terroriste n'a plus aujourd'hui les mêmes capacités de projeter sa menace, de faire des attentats qu'à l'époque. Donc on peut passer à une nouvelle phase dans cette lutte antiterroriste qui soit moins militaire, parce qu'on se rend compte, d'ailleurs c'est assez logique, qu'une présence militaire étrangère massive et prolongée dans un pays en guerre civile, eh ben finalement ça produit aussi du terrorisme. Et donc à un moment, prolonger une opération en espérant un retour à la stabilité, surtout avec des critères très occidentaux, eh bien ça devient parfois un peu contre-productif.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal, évidemment, de 19h.
La France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le Pakistan en raison de violentes manifestations anti-françaises qui se déroulent actuellement dans le pays.
C'est un temple du foot, le stade Vélodrome à Marseille. J'attendais que Anissa réagisse, mais non, il ne se passe rien.
Ah non, c'est pas le même stade, là, Anissa.
Une expo qui n'a aucun rapport avec le ballon rond.
Oui, mais qui ravira les amateurs de rock, Angèle Châtelier, et surtout les fans des Rolling Stones.
Oui, parce qu'à partir du 5 juin, le stade Vélodrome à Marseille accueillera une exposition dédiée au mythique groupe de rock. Mètres carrés d'espace avec des instruments, des affiches de tournée, des costumes, des vidéos de live. L'un de leurs appartements de Londres, assez vétuste, où ils ont appris les rudiments du blues, a même été reconstitué comme des studios d'enregistrement. Cette exposition a déjà été un événement à Londres en 2016, mais on nous promet que celle en France a été repensée, sera différente. Et rien que pour ça, Mick Jagger lui-même a laissé un petit message à ses fans français lors d'une conférence de presse.
The Rolling Stones unzipped à l'Ange Vélodrome. Vous allez adorer. I see a red door
and I want it painted black. La billetterie pour aller à cette exposition est maintenant ouverte. Comptez 25 euros par adulte pour s'offrir de quoi célébrer comme il se doit les 60 ans de carrière de l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps.
Vous allez adorer. C'est Mick Jagger qui le dit. Et Angèle Châtelier.
Anissa réagit toujours pas.
Au Vélodrome.
C'est bientôt à vous. C'est bientôt à vous. Préparez-vous. Okay, c'est la météo dans quelques instants. Merci Isabelle.
À demain.
C'était le journal d'Isabelle Millet qu'on retrouve évidemment demain aux manettes, comme chaque vendredi du 18-20. La météo.
Je
Anissa, réveillez-vous. C'est votre tour. Bon, du froid, du soleil, des nuages et du vent demain. Voilà le programme. Merci.
Oui.
Au revoir.
Alors, dans l'ordre, ça va exactement se passer comme ça. Du froid le matin avec toujours des gelées. Nous aurons moins 5 à moins 1 sur les régions centrales. Moins 5 degrés par exemple à Montluçon, moins 2 à Clermont-Ferrand. Du soleil sur les trois quarts du pays le matin. Des nuages qui arrivent dans l'après-midi et qui vont recouvrir quasiment toute la France. Vous nous parliez du vent. Effectivement, c'est la bise qui souffle toujours sur la moitié nord et une partie de l'est du pays avec le Mistral qui s'engouffre comme d'habitude dans la vallée du Rhône. Vous nous avez dit quoi aussi? Des averses. Ah bah oui, c'est dans le quart sud-est demain sur le massif central, le Lyonnais, les Alpes, la Provence et la Corse que nous aurons des averses avec une instabilité qui s'installe sur ces régions. Les températures, eh bien elles sont stationnaires au meilleur moment de la journée. Nous aurons 8 degrés à Saint-Etienne, c'est encore frais pour la saison. 12 à Paris, 14 à Lyon, 15 à Marseille et Bordeaux et 17 la maximale pour Ajaccio.
Merci ma chère Anissa, je vous souhaite une belle soirée.
À demain,
18h.
Europe 1, écoutez le monde changer.